Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, va nous rejoindre dans une poignée de secondes David Bann. Il est à l'affiche de la comédie musicale Bernadette de Lourdes à partir de la rentrée, partout en tournée en France, mais également en ce moment en tournée en Chine du côté de Roméo et Juliette. Et puis bien sûr, il a incarné Valentin Carrier dans Plus belle la vie. On le reçoit dans un instant. Et puis on va également bien évoquer nos coups de cœur télé de la semaine avec La vie devant toi, le téléfilm événement qui sera diffusé mercredi sur France 2. À cette occasion, Sandrine Wessel, la réalisatrice, sera accompagnée de Sabine Barthélémy, la productrice, et également les deux héroïnes primées au Festival de la fiction télé de La Rochelle, Maïra Schmitt et Zoé Errant. Et puis en fin d'émission, notre coup de cœur ciné sera pour le film Sexygénaire. Robin Sykes sera là avec nous, accompagné de Patrick Timsit et de Zineb Tricky. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui, alors c'est parti, voici tout de suite David Bann dans Chut, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité, il est de retour évidemment dans les comédies musicales, à la télévision, sur scène, avec son album 3-2-1 qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Monsieur David Bann est de retour dans Chut, on écoute la télé pour notre plus grand plaisir. Bonjour David.
Bonjour, très heureux d'être là.
Alors dis donc, je sais pas comment t'as fait pour arriver, est-ce que je puisse t'alpaguer? T'as vu, beau jeu de mots déjà, ça commence fort.
Bah en fait, on essaye hein, de se capter, de s'alpailler, comme tu dis. Et là, je suis très heureux qu'on y ait réussi pour ce coup-là, à se retrouver ici, dans cet endroit magnifique.
Oui, parce que là, il faut savoir que tu pars quand même pour quelques mois en Chine, pour une grande tournée pour Roméo et Juliette, qui est en train de vivre une renaissance totalement inattendue, avec un succès inespéré.
Mais c'est vrai, en plus, c'est un peu les 20 ans de la comédie musicale, culte en France, et c'est vrai que dans les pays comme en Asie, mais c'est parti aussi en Russie, faut savoir que ce spectacle a été fait par plein de compagnies en Russie, même en Hongrie, en Italie, par des troupes donc des différents pays, et n'a jamais cessé de tourner par contre avec la troupe française à l'étranger. Et là j'ai intégré ce cast, notamment suite à l'appel de mon pote Damien Sargue, qui lui était venu me remplacer sur Bernadette de Lourdes, la comédie musicale. Du coup, il m'a demandé de passer le casting pour le rôle du prince, celui qui chante « Vous êtes à Vérone ». Et j'ai été pris. Et ce qui est très drôle, c'est que pour la petite histoire, il y a 15 ans, j'avais été pris pour le même rôle, mais j'allais avoir un bébé, j'allais avoir mon deuxième enfant, donc j'ai refusé, j'ai décliné. Et c'est assez marrant de voir comme les choses se remettent en place. Et là, partir sur cette aventure, je suis parti à Taïwan donc en février dans le rôle du prince. Et en effet, l'engouement qu'il y avait en France quand ça a démarré en 2005, c'est le même actuellement en Asie. Et là, on part pour 4 mois en Chine, ça va être incroyable.
C'est ça qui est assez dingue, c'est ce succès. Alors, tu as retrouvé notre amie Cécilia Cara aussi, évidemment, qui a rendossé le costume de Juliette aussi, Damien Sark. C'est une petite famille, hein, les comédies musicales, finalement, et vous avez toujours plaisir, vous connaissez quasiment par cœur sur scène, toi qui as tourné avec Damien sur Les Trois Mousquetaires, par exemple.
Mais c'est sûr que c'est un microcosme, en fait, tout le monde se croise, tout le monde se rencontre, que ce soit les comédiens qui ont fait Les Dix Commandements, ou bien Mozart l'Opéra Rock, ou Trois Mousquetaires, Amant de la Bastille, et c'est vrai qu'on se retrouve avec plaisir. Et Damien, notamment Cécilia, pour moi, j'ai travaillé avec Cécilia sur Grease, sur Il était une fois Joe Dassin, et avec Damien sur Les Trois Mousquetaires. Et là, maintenant, donc Bernadette de Lourdes, où il est venu alterner avec moi un été. Et se retrouver avec les deux sur la scène avec Roméo et Juliette, c'est assez incroyable. C'est des artistes que j'aime beaucoup humainement, artistiquement, et c'est tout le cast est formidable, donc on s'éclate vraiment.
Alors à l'instar de Cécilia qui a sorti un très bel album qui s'appelle Paris Bogota, et Olivier Dion qui vient de sortir également son album dont on va parler aussi dans Chute en écoute la télé, et bien toi il y a eu l'Alpagueur, et puis là 3-2-1, ce nouvel album avec ce titre encore plus fort qui résonne un peu comme une ritournelle qu'on ne peut plus s'enlever de la tête.
Je pense que t'es bien placé pour le savoir parce que à l'époque, on a fait une tournée des espaces culturels Leclerc, notamment, dans les différents centres commerciaux. Et dès que je faisais la balance sur ce titre, les gens...
Le testais finalement, ce titre.
Et oui, et les gens venaient m'acheter l'album. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose avec cette gimmick. Et du coup, c'est un peu mon ma figure de proue à l'avant de mon bateau. À tous les concerts, je le fais. Même en jouant dans la pièce Bonjour Ivresse, une pièce de théâtre, à la fin du spectacle de la pièce, on lance le titre et les gens s'ambiancent. C'est génial. Pour moi, c'est un petit peu mon petit tube. Donc c'est top. Et il porte en effet ce deuxième album, 3-2-1, avec des arrangements qui sont un peu plus pop, un peu plus studio aussi. J'ai travaillé avec Pierre Ballet, qui a travaillé avec Guillaume Atlan, Superman Lover. Donc il y a une production qui est plus moderne aussi, peut-être que le premier album qui était plus avec que des instruments, quelque chose de très organique. Mais en aucun cas je ne dénigre mon premier album parce que j'ai plaisir à jouer aussi bien les morceaux du premier que du deuxième.
Oui, sur scène tu alternes complètement les deux. Bon, c'est le moment de monter le son puisque là maintenant on va vous dire encore plus fort. On va l'écouter maintenant. David Bann est notre invité aujourd'hui dans Chute on écoute la télé.
Du matin, c'est lendemain de fête. La journée va être longue, j'attends que ça s'arrête. Ton visage qui me hante, qui me prend la tête, qui consume mon cœur comme une allumette. Tu joues un jeu dangereux, si gagné d'avance. Le perdant de nous deux n'est pas celui qu'on pense. J'en veux encore.
Plus fort, c'est le titre de David Bann. On va en écouter évidemment d'autres d'ici quelques instants. On va pas bouder notre plaisir, David. Mais alors, une corde à ton arc quand même aussi, c'est la comédie. Tu adores jouer la comédie. Et tous les fans de Plus belle la vie ont été tellement heureux de te retrouver dans le rôle de Valentin Carrier. C'est un rôle que tu as joué pendant 2 ans Et on a l'impression que tu as eu un plaisir avec Caroline Riou, notamment, qu'on embrasse très fort, à jouer ce rôle. C'était assez dingue.
C'est vrai qu'il y a des rencontres voilà, qui ne s'expliquent pas. Ce qui est très drôle, c'est que j'avais été pris pour faire le rôle d'un kiné peu de temps avant.
Le kiné de Luna, quand elle était en fauteuil roulant.
Et je ne pouvais pas parce que je partais en Panama avec une comédie musicale. Donc, pour l'histoire de date, ça n'a pas marché. Et au final, c'est un mal pour un bien parce que je pense que cette rencontre avec Caroline, ce duo improbable entre un milliardaire et une femme de ménage, a un petit peu touché le cœur des gens. Et encore maintenant, les gens viennent me voir en me disant « Ah, on vous reconnaît encore ce matin, en venant dans le train. » Et moi, je joue avec plaisir le jeu de faire de la photo ou bien de faire une petite vidéo avec les gens parce que c'est toujours tellement agréable que je ne peux que me réjouir et me dire « J'ai une chance énorme de faire partie de cette aventure-là, de rencontrer tous ces artistes parce que c'est vraiment une famille, hein, plus belle la vie. » Évidemment, ça me fait beaucoup de peine que le programme s'arrête. Moi, parce que ça fait moins longtemps que j'étais dedans que des artistes qui étaient dedans, des comédiens depuis 18 ans. Hein. Mais voilà, c'est une aventure incroyable qui résonne encore dans mon parcours et quel plaisir de jouer avec Caroline qui est formidable. Et d'ailleurs, je l'ai même emmené jusqu'à enregistrer un duo qui est sur mon album On se dit vous, on se dit tu. On se dit tu, on se dit vous.
On embrasse évidemment Caroline. On pense à Michel Corde, évidemment très très fort, ça a bouleversé tous les fans de la série et tous les comédiens aussi. Voilà, Roland Marcy restera à jamais dans vos cœurs et dans le nôtre aussi, ça c'est une évidence. Pour les projets, Benoît Gênant, et il va y avoir Lupin qui va arriver au mois d'octobre. Tu regorges et tu fourmilles encore de beaux projets et je crois que tu aimes bien l'action. Tout ce qui a un petit peu d'action ou de comédie, c'est quelque chose qui te fait triper.
En fait, ce qui est assez amusant, c'est que sur les Trois Mousquetaires, on a travaillé avec un maître d'armes, Albert Goldberg, et du coup, on l'a mis en place. J'ai appris le travail de chorégraphie de combat, le truc où tu mets des faux coups de poing, mais on a l'impression que c'est vrai. Quand je passais les castings en tant que comédien, quand on me demandait si oui ou non je pouvais faire une scène de combat, je disais bah oui, parce que maintenant j'avais cette corde à mon arc, et ça m'a ouvert notamment vers Loin du périph, le film avec Omar Sy, Laurent Lafitte, réalisé par Lulu Terrier, qui est juste le réalisateur français qui vient de réaliser Fast and Furious 10. J'ai travaillé avec Alain Bouisse, qui est un maître d'armes et un directeur de cascade, et lui, je lui ai tapé dans l'œil, et maintenant il m'appelle lorsqu'on a besoin d'un comédien qui peut jouer la comédie et en même temps distribuer des patates. Donc voilà, je suis très heureux de me retrouver avec ces scènes d'action. C'est toujours un plaisir et c'est aussi un art très noble, je trouve, parce que ces cascadeurs qui sont là sont très humbles, et c'est incroyable de voir le travail qu'ils font. Et si moi je peux avoir mon petit pied là-dedans, c'est top.
Il faut dire qu'avec les Trois Mousquetaires, t'as été aguerri un peu à des scènes comme ça, et en plus en live, hein, parce que là, c'est pas la télé, ça se refait pas. Là, c'est du direct, tous les soirs, devant un public, et là, ça peut pas tromper, quoi.
Non, c'est ça, et non seulement sur scène, c'est comme ça, mais pareil, quand tu fais des scènes de combat devant la caméra, il faut vraiment bien tenir compte de où se trouve la caméra au moment où de l'impact, notamment pour qu'on y croit. Le but, c'est d'y croire. C'est qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de faire comme on l'était quand on était gamin dans la cour de récré à se taper pour de faux, quoi.
Cet album, 3-2-1, on peut le retrouver où, comment? On peut l'écouter sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légal et évidemment, on peut le commander aussi en physique.
Tout à fait. Moi, j'ai un distributeur digital, donc c'est Inouï, sur Internet.
Rien à voir avec le TGV.
Rien à voir avec le TGV. Mais également sur mon site internet, davidban.com. En plus, sur mon site, vous pouvez l'avoir dédicacé. Et moi, lorsque je fais des concerts, il est toujours avec moi et je le mets à disposition avec évidemment signature à la clé. Ce qui est intéressant, notamment avec Roméo et Juliette, c'est que j'ai pu là-bas emmener mon album et le vendre dans le merchandising, notamment du spectacle, ce qui fait que le public asiatique me découvre aussi. C'est incroyable de voir à quel point tout passe les frontières et encore plus fort, encore une fois, faire résonner et danser les gens partout dans le monde, quoi. C'est génial.
Même en Chine. Tu vois, comme quoi. Quel titre de toi tu as envie qu'on écoute pour se quitter, David?
J'aurais envie d'entendre, qu'on mette quelque chose de plutôt frais. Bah, justement, l'album s'appelle 3-2-1. Écoutons 3-2-1.
Eh bien, écoute, on va écouter 3-2-1. On te retrouve en Chine, hein, du coup, dans Roméo et Juliette. Tu reviens dans le courant de l'été et tu repars sur Bernadette Delourde. On te retrouvera en octobre sur Lupin, sur Netflix, sur la partie 3 de la série. Et puis, on te retrouvera avec Artus, dans Benoît Gênant. Bref, on va pas te quitter cette année, j'ai l'impression encore.
Non, puis ce qui est génial, c'est que Bernadette Delourde, c'est une comédie musicale. On va être au Palais des Sports en septembre pour environ 6 spectacles et on enchaîne directement sur une tournée à travers toute la France. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est un spectacle qu'il faut aller voir. On n'imagine pas à quel point ce spectacle touche les cœurs. Évidemment, ça parle de cette jeune fille, Bernadette, qui a vu les apparitions de la Vierge Marie, mais en aucun cas, il y a de prosélytisme. On n'est pas en train de vouloir faire croire ou pas à la Vierge Marie. Moi-même, si ça avait été le cas, je ne l'aurais pas fait. Je suis catholique, mais je ne suis pas forcément pratiquant. J'ai ma manière de voir les choses. Et ce spectacle-là, il est pour tout le monde, aussi bien pour les catholiques que les non-croyants. Et on se rapproche plus des Misérables, avec une mise en scène de Serge Delancourt incroyable. Ce sont les mêmes producteurs que Robin des Bois, Roberto Sorlio et Léonore de Galard, les Trois Mousquetaires. Et le spectacle est hyper émouvant. Et en plus, pour ce retour, il y a une nouvelle chanson. Voilà, il y a tout pour être touché. C'est un beau divertissement, mais plus loin que le divertissement, ça touche les cœurs, c'est top.
Et ça partira partout en tournée, y compris dans notre région, sur 2023-2024. En tout cas, David, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir, des gros bisous à tous.
On s'écoute, 3, 2, 1, juste après, je vous donne les dates de passage de Bernadette en Nouvelle-Aquitaine.
On n'aurait pas dû se rencontrer, je n'aurais sûrement pas dû te regarder, passer mon chemin, te laisser filer. C'est peut-être le destin qui s'est emmêlé. On s'est juré des choses,
on s'est juré des choses,
on y croyait tout bas,
on y croyait tout bas.
Les promesses que l'on
ose
sont celles qu'on ne tient pas,
sont celles qu'on ne tient pas.
3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey.
J'ai vu dans tes yeux ce que tu n'avoues pas. L'amour est un jeu et moi je ne perds pas. Baisse les armes et laisse-toi tenter. Dans 3 secondes, notre histoire va commencer. On s'est juré des choses,
on s'est juré des choses,
on y croyait tout bas,
on y croyait tout bas.
Les serments sur les roses sont comme des combats.
3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey.
3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey.
3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. 3, 2, 1, hey. On s'est juré des choses.
Bernadette de Lourdes, ça passera près de chez vous le 2 et 3 décembre à l'Arena de Poitiers, le 9 et 10 mars à Bordeaux et le 6 et 7 avril prochain en 2024 à Nantes. On va marquer une pause, on va revenir dans un instant avec nos coups de cœur télé, spécial La Vie Devant Toi et Antoinette Giré pour Tropic Criminel. Et puis en fin d'émission, notre spécial Sexygénaire. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
I held a magnifying glass up to our love. burned a hole right through it. And in the light of day, I see the end of us. Guess I always knew it. But if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door, dim the light.
C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute On Écoute La Télé. Chute On Écoute La Télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à la vie de Vantois et on va avoir la chance aujourd'hui de recevoir toute une partie de l'équipe de ce film que vous allez découvrir cette semaine sur France 2 avec Sabine Barthélémy qui est avec nous aujourd'hui, la productrice. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également la réalisatrice Sandrine Vessé. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci d'être là aussi. Une histoire très contemporaine, très d'actualité aussi sur ces deux jeunes filles, histoire de Violette. Comment est venue cette idée, cette histoire? C'est la productrice ou la réalisatrice, pour le coup, qui est l'instigatrice?
Non, en fait, c'est un sujet qui nous a été amené par une scénariste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Françoise Charpia, qui nous a proposé le sujet. Et voilà, c'est à partir de son idée, son envie, qu'on a développé le scénario. Et dans un deuxième temps, quand voilà, on avait une version de scénario, on a appelé Sandrine, on lui a proposé de réaliser le film.
Et là, tout de suite, ça a été oui?
Non, ça a pas été oui tout de suite parce que j'ai pas l'habitude de, c'était mon premier téléfilm, donc j'ai hésité.
C'est la première fois que vous réalisez pour la télé, oui?
Oui. Mais après, il y avait quelque chose qui jouait en la faveur du projet, c'est que c'était amené par Thomas Anargyros, que je connaissais par ailleurs, et j'ai trouvé la production très bienveillante dans cette proposition par rapport à moi, donc du coup là j'ai accepté. Après, j'ai lu le scénario, le sujet m'intéressait, et puis voilà.
On va y suivre. C'est une histoire d'amour entre deux adolescentes qu'on va suivre, celle de Violette et celle de Lisa, jusqu'au moment. Alors, une qui assume, hein, clairement, son homosexualité. Par contre, l'autre qui la cache. le personnage de Isaac et Akash. On va en parler évidemment avec Zoé et avec, avec Marina dans un instant. Mais c'est vraiment une très belle histoire, je disais, contemporaine et vraiment d'actualité, cette histoire. C'est vrai, c'est aujourd'hui, puisqu'il y en a une qui fait face à des violences, elle est victime de violences et malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, l'homophobie est grappie du terrain, j'oserais dire même.
En tout cas, elle est encore très présente, quoi. Alors qu'elle gagne du terrain, peut-être, je sais pas.
En tout cas, il est important qu'il y ait des films comme le vôtre pour faire avancer les mentalités et peut-être éveiller un peu les consciences aussi.
Oui, et puis se rendre compte qu'effectivement, même si on pense qu'en 2022, c'est plus sain d'être homosexuel, comme disait Sandrine, selon le milieu social, selon l'entourage et selon, je sais pas, c'est pas si simple que ça. Donc c'est sûr, on se dit, c'est plus facile aujourd'hui de faire son coming out qu'en 1932, où ils étaient tous cachés, mais je crois qu'en fait, il y a encore des endroits et des moments et des familles où c'est compliqué. C'est en fait rappeler que c'est pas à gagner, c'est pas, voilà, qu'il y a encore des adolescents qui ont du mal à avouer ça à leur famille et des familles qui sont incapables de l'accepter. Après, si ça peut faire bouger des choses et que les gens se rendent compte que c'est pas si simple, tant mieux.
Il y a un casting magnifique autour, hein, évidemment, de Zoé et Mayra et Léonore Bernheim. On a Xavier Widoff, que les fans de Demain nous appartient reconnaîtront, j'en suis sûr. David Kamenos et plein d'autres encore qui sont à ce casting. Mais moi, je voudrais qu'on s'attarde vraiment sur Zoé et Mayra, juste avant qu'elles arrivent. Comment vous les avez trouvées, toutes les deux? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, de leur faire incarner ces deux rôles?
Alors, c'est la jeune femme qui faisait le casting. Donc, elle m'a proposé des gens qui venaient plus de la télé, quand même, donc des acteurs que moi je connaissais pas. Et à travers toutes ces propositions, voilà, ça s'est affiné. Et Zoé, dès le début, elle m'a vraiment interpellée. Ses yeux bleus, enfin, elle avait quelque chose qui me plaisait bien pour le rôle. Je l'ai pas choisi tout de suite. Et après, par contre, j'ai essayé de faire des couples avec d'autres actrices jusqu'au moment où en fait Mayra est arrivée et où il y avait comme une évidence. En plus, c'était drôle parce que, sans le savoir, elles s'étaient habillées pareil, dans les mêmes couleurs, noir et bleu, comme elles sont aujourd'hui, parce qu'elles ont fait un espèce de clin d'œil au casting. Et c'était, oui, il y a eu une évidence, quoi. Elles se sont bien. Parce que souvent, on trouve quelqu'un dans un. Enfin, par exemple, on prend le rôle principal, et puis après, il faut se matcher avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, tant que ça se matche pas, il y a un manque, quoi. Donc là, c'était, voilà. Elles se sont bien trouvées, et à partir de là, après, on a construit tout le reste.
L'histoire de base. Pour essayer de planter un petit peu le décor des personnes qui pourraient rater par exemple les 5 premières minutes, qu'ils essaient de comprendre rapidement de quoi il s'agit, du sujet duquel on parle, comment on pourrait l'évoquer?
Bah, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes filles qui se découvrent voilà, et qui vont se rencontrer via les réseaux sociaux et vivre leur première expérience en fait sentimentale et sexuelle. Et après, c'est leur ressenti aussi, comment elles sont acceptées ou pas dans leur famille, avec des milieux très différents. Mayra, elle est dans une famille assez conservatrice, bourgeoise, catholique, etc. Et Zoé est dans une famille un peu plus ouverte, avec des parents, une mère prof et tout ça, donc un milieu assez ouvert. Et en fait, ça va se compliquer, mais peut-être pas là où on l'attend, quoi. Ça. Mais voilà, je dirais que c'est une belle histoire d'amour entre deux et ouais. Où elles font un chemin ensemble. Et puis voilà, ça va les.
Ce que j'ai aimé, c'est que alors, l'une des deux est victime d'une agression quand elles sont ensemble. L'autre, évidemment, disparaît. Et il y a plein de choses qui vont se passer autour pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'agression arrive quasiment dès le début du film et qu'on repart en arrière pour comprendre cette histoire, comment elle s'est nouée, comment cette relation tout doucement s'est nouée entre ces deux adolescentes pour en arriver jusqu'à ce drame. C'est ça que j'ai aimé, c'est que justement, voilà, dès le départ, on plante et après, on revient en arrière pour comprendre. Et ça, j'ai bien aimé.
Non, après ça, c'est quand même aussi les structures dont on a l'habitude à la télévision, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire, comme on n'a pas le temps pour la chronique à la télévision et qu'il faut qu'on plante l'enjeu directement pour que le spectateur comprenne où on en est, de quoi on va parler. C'est vrai que c'est quand même un truc qu'on utilise assez souvent, où ça commence soit par l'agression, genre regardez à quoi on va arriver, et du coup on se dit que ça va maintenir une tension pour le spectateur, se dise ah oui mais j'ai envie de comprendre. En l'occurrence ça marche bien parce que c'est vrai que ce espèce de truc en plus entre l'insulte et le coup de casque là, ça fait quand même un électrochoc.
Si on s'y attend pas, c'est vrai. Merci Sabine et merci Sandrine d'avoir été avec nous toutes les deux. On va continuer à en parler, La vie devant toi. C'est cette semaine sur France 2, le film à ne pas rater. On écoute un petit extrait tout de suite.
Papa, maman, voilà, je suis lesbienne.
On a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave.
tout cas, on n'a jamais envisagé ça comme un problème.
Franchement, c'est pas normal, madame. Le pire, c'est les PD.
Quand tu dis c'est pas normal, c'est par rapport à qui?
La fille de la prof qui la ramène, allez.
Parce que tu vois une fille, toi?
Les gars, je dis ça, je dis rien, moi.
Ouais, bah dans ce cas, ferme ta gueule.
Quand j'ai fait mon coming out, j'ai cru que tout allait être possible.
Ta vie, elle est devant toi, Violette.
T'as déjà regardé sur internet comment on traite les homos?
Ça gouille.
Je peux pas assumer, Violette.
Faut qu'on arrête.
La vie devant toi et le qu'en dira-t-on derrière. Inédit, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
On continue à parler de La vie devant toi, le téléfilm événement de France 2 cette semaine, et on continue avec les formidables comédiennes qu'on a la chance de recevoir avec nous. Zoé Rand, bonjour Zoé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour Mayra Schmitt, qu'on a toujours plaisir à recevoir également. Bonjour Mayra.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci d'être là, vous incarnez Violette et Lisa, toutes les deux. On a planté un peu le décor avec la productrice et la réalisatrice il y a un instant. Cette histoire d'amour très contemporaine, très d'actualité. On est sur un sujet très d'actualité, puisque pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques instants, on plante le décor de cette histoire d'amour qui, on va dire, dès le début, démarre par une agression. Et on va remonter un peu le fil du temps pour comprendre comment cette histoire d'amour aussi s'est nouée entre ces deux adolescentes, comment ça s'est passé aussi, et pourquoi cette agression, qui, quoi, comment. Et ça, eh ben moi j'ai bien aimé le fait justement de partir un peu de ce postulat pour revenir en arrière et comprendre tout ça. Qu'est-ce qui vous a attiré déjà un petit peu dans cette aventure, toutes les deux, Mayra?
Déjà l'histoire, en lisant le scénario, c'est vrai que j'étais contente qu'on parle d'homosexualité, de réseaux sociaux, d'agression, de trucs hyper ancrés en fait dans la société actuelle. Et puis après, c'est vrai que c'est drôle, mais j'imaginais Zoé pour le rôle de Violette, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à elle. Et du coup, quand on s'est retrouvés ensemble en casting, je me suis dit j'ai encore plus envie de le faire, parce que j'avais envie de la rencontrer, de la connaître et de travailler avec elle. Et au final, c'est une surprise très bonne et très agréable. Et la réalisatrice Sandrine, qui en casting m'a vraiment subjuguée, ça m'a tout de suite captivée, j'avais vraiment vraiment envie de travailler avec elle. Donc c'était le film, la comédienne et la réalisatrice.
Nous confier un instant d'ailleurs que c'était une évidence toutes les deux. Sa Violette et sa Lisa, c'était vous deux. Elle a trouvé que l'alchimie est passée tout de suite justement entre vous deux.
Elle me l'avait pas dit ça, donc ça me fait un peu plaisir, ouais. Parce qu'elle aime bien me tacler, donc là je prends. Moi, pour revenir en fait à ce que disait Mayra, c'est d'abord le sujet qui est assez important, et le sujet surtout à la télé, parce qu'on en a vu, il y en a, pas énormément, mais il y en a des films sur l'homosexualité, sur les enjeux que ça a au cinéma, mais il faut que les gens aient envie de se déplacer. Alors que là, on leur ramène cette histoire-là directement chez eux, donc c'est à eux de rester, de zapper ou pas. Donc c'est assez important d'en parler à la télé.
Ce film, il résonne évidemment, on le disait, terriblement d'actualité, les agressions homophobes, j'oserais presque dire, ne recule pas, au contraire. Et il est vrai que ce film permet aussi de découvrir cette histoire d'amour à travers vos deux personnages. Est-ce qu'il y a eu des scènes pour vous un peu difficiles à jouer, un peu délicates? Est-ce qu'il y a eu des moments où justement le fait que ça passe bien au casting, ça s'est passé crème?
Chaque séquence me faisait vraiment peur. Parce qu'à chaque fois, il se passait un truc. Donc, soit c'était une agression, soit c'était une scène d'amour un peu dénudée, soit c'était des larmes, soit c'était... Enfin, à chaque fois, il y avait quelque chose.
C'était intense.
C'était très intense. Et au final, c'est passé crème.
C'est passé crème.
Ouais. C'est passé crème. Et voilà, c'était un truc un peu... C'était un tournage intime, moi, j'ai trouvé un truc un peu... On était en confiance, on se sentait bien, on se sentait proche de tout le monde. Et avec Zoé, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de jours ensemble, au final. Mais on a réussi à créer une vraie connexion. Et donc c'était agréable de partir sur des séquences qui faisaient peur et de se dire au moins on est là l'une pour l'autre. Et après on commençait à se connaître et on savait quand épauler l'autre et quand se faire épauler. Et donc ça c'est vraiment trop agréable quoi.
Zoé, comment on la définirait pour toi, Violette? Qui est-elle?
Violette, c'est une jeune fille, c'est une ado qui pour moi va très rapidement vers l'adulte, parce qu'elle, c'est une ado qui a la tête dure. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle se laisse pas marcher dessus, elle a pas peur des gens. C'est-à-dire que, d'ailleurs, elle est assez stylée du coup, mais en gros, c'est quand je dis elle passe à l'âge adulte peut-être avant tout le monde, c'est que sûrement de par son climat familial. Elle a confiance en elle, en fait. Elle n'a pas de problème de complexe ou autre. C'est-à-dire que c'est une ado qui s'assume, et dans sa sexualité et dans sa personne.
Parce qu'elle assume parfaitement son homosexualité. D'ailleurs, quand elle l'annonce à ses parents sont même pas étonnés. Elle a la chance d'être très bien entourée, finalement, cette jeune fille.
Ah oui, pour le coup, c'est un peu le cadre entre guillemets, rêver pour faire un coming out, je pense. Elle est bien entourée et ce qui fait qu'elle se prend encore plus dans la gueule, dans la tête, cette agression qui lui rappelle qu'en fait la vie n'est pas
tranquille.
Voilà, voilà.
T'as vu, référence cinématographique. Alors toi, Maïra, c'est tout le contraire. Personnage de Lisa cache un peu ça, n'assume pas. C'est un peu le contraire justement du personnage de Violette.
Oui, bah en fait Lisa, elle a un climat familial qui du coup est vraiment très différent et qui ne lui permet pas d'assumer pleinement son homosexualité. Pourtant, elle-même, je pense qu'elle ne se pose plus de questions et qu'elle sait que elle est attirée par des femmes et par Violette en l'occurrence. Mais voilà, il y a ce climat qui règne et en fait tout au long du film, on se rend compte que bah elle ne peut, même quand elle le dit, même quand les choses sont claires et exposées, personne ne l'accepte. Donc en fait, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, l'homosexualité, on la met sous le tapis. Et donc du coup, elle fait du mal à Violette, elle fait du mal à sa famille, elle se fait du mal à elle-même. C'est un peu le bazar, quoi.
C'est pas des rôles, effectivement, comme tu dis, c'est très intense, hein, quand même, ce que vit Lisa aussi, au contraire du personnage de Violette, qui, elle, est dans un environnement familial beaucoup plus serein, et pourtant, c'est elle qui se fait agresser. Et voilà, on va découvrir évidemment pourquoi, on va découvrir comment tout au long de cette aventure. Merci à toutes les deux, merci Zoé, merci Maïra d'avoir été avec nous. Et puis on se dit à très très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de découvrir La Vie Devant Toi. C'est cette semaine sur France 2, la fiction à ne pas manquer.
Oui Mathieu, je suis en cours. Violette ? Quoi ? Ok, j'arrive tout de suite. Non, je prends un taxi, j'arrive tout de suite. Margot ?
Oui ?
Tu préviens votre CPE s'il te plaît.
D'accord.
Je dois partir en urgence. Tu l'as vu ? Dis-moi qu'elle a rien.
Ils lui font un scan, on en saura plus après.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était à vélo ?
Je sais pas. Les pompiers l'ont trouvée inconsciente sur les quais.
Inconsciente ? Mais elle s'est réveillée ?
Oui, bien.
Mais t'as pu parler à un docteur ?
Rapidement.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Tropic Criminel. On en parle toutes les semaines. C'est une de nos séries préférées. On se régale des paysages, des histoires, on rit. Il y a plein de belles choses. C'est vraiment de la comédie policière. Et on va passer un peu en revue les personnages. Hein, après Benjamin, justement, la semaine dernière. Eh bien, c'est sa sœur, sa petite sœur, qu'on va avoir en ligne avec nous. Antoinette Giré, qui joue le rôle de Chloé. Bonjour Antoinette.
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va très très bien. Merci d'être avec nous Antoinette pour une nouvelle fois. Écoute, cette série franchement mais nous fait un bien fou. Est-ce que toi, à tourner, elle te fait le même bien que nous à regarder ?
Ah ben oui, c'est très intéressant je trouve comme expérience. D'année en année, c'est une expérience nouvelle au fil des enquêtes, ça évolue aussi. Donc oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de tourner, de retrouver la Martinique, de retrouver Chloé. C'est une belle expérience à chaque fois.
J'imagine bien, dis-moi, franchement, est-ce que t'arrives des fois à garder ton calme quand tu regardes par exemple Sonia et Béatrice jouer ? C'est la question que je pose à tout le monde parce que c'est deux bouts en train et sur un tournage, franchement, ceux qui les regardent jouer, ça doit être complètement jouissif quoi.
Alors mes scènes avec Sonia, elles sont très merci et très un peu plus dans la tension et tout ça, donc généralement on crée quand même quelque chose que j'ai connu les petits embrouilles avec ma mère et tout, donc j'ai de quoi puiser.
Oui.
Et j'arrive bien à projeter. Avec Béa, c'est vrai qu'on a plus des scènes un peu plus style interrogatoire et tout ça. Et comme elle me fait rire aussi, c'est vrai que on a souvent des fous rires, on va dire. C'est plus compliqué de garder son calme, mais elles sont top. Elles sont top.
Bon, on t'a vu dans l'épisode 3 un peu plus. Quelles sont les grandes lignes en fait du personnage de Chloé sur cette quatrième saison qu'on est en train de voir ?
Eh bien, Chloé fait son coming out en tant que personne pansexuelle et donc on la découvre dans une relation avec une femme. C'est aussi sa première vraie relation amoureuse en fait. Elle va apprendre un peu ce que c'est que l'amour, un peu la souffrance d'avoir un cœur brisé. Et voilà, on va la retrouver curieuse et intelligente, un petit peu moralisatrice aussi comme d'habitude. Donc voilà, je préfère ne pas en dire plus, mais c'est un épisode en tout cas qui pour moi était très challengeant parce que ça me fait sortir pas mal de ma zone de confort par rapport à plein de choses qui se tournent par rapport au sujet en fait juste de l'épisode. Et après pour le fait que Chloé soit pansexuelle, c'est quelque chose qu'on avait discuté avec les scénaristes qui émanent de moi, parce que je me suis dit que ce serait aussi intéressant d'avoir un personnage ou juste son identité sexuelle est autre que hétérosexuelle, et voilà. Donc je suis plutôt fière de ça.
On suit aussi souvent Chloé qui se met dans des situations relativement cocasses, hein, justement, et qui se retrouve à des interrogatoires par moment. Et ça, c'est des situations qui sont assez drôles, mais elle se retrouve souvent au milieu d'affaires de façon improbable, hein, quand même. Hein.
Oui, c'est vrai que souvent, elle va au bout, déjà, c'est un personnage qui va au bout des choses et que souvent, elle se retrouve dans des situations où je me dis, elle a vraiment du cran, cette fille, quand même, parce que...
Ah oui, limite d'être brûlée, hein. Limite d'être brûlée, quand même,
oui,
des fois, bah, même.
Vraiment.
Hein.
Ah, ouais. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien aller vraiment au bout des choses, quitte à se retrouver un peu dans l'embarras, des fois, de manière un peu intentionnelle. J'ai l'impression qu'elle cherche un peu aussi ce truc-là de frisson. Elle est tellement rebelle qu'elle va, elle va à fond, quoi.
Une autre série dans laquelle tu fais les beaux jours et les beaux étés d'M6, c'est En Famille. Aussi, tu y joues le rôle d'Annabelle. Il va y avoir un prime time exceptionnel qui va arriver très bientôt, justement sur M6, et qui sera d'ailleurs proposé au festival de Monte Carlo cette semaine. Et je dois avouer qu'En Famille, c'est une série qu'on adore aussi. Et là, c'est vraiment une série chorale, une série de troupes, où là aussi, tu dois t'amuser finalement quand même.
Ouais, là l'ambiance, elle est différente aussi parce qu'on se voit plus tout au long de l'année, on va dire. Alors que Tropic Criminel, c'est vrai que c'est plus ponctuel.
Ouais.
On tourne 4 mois par an. Là, En Famille, on se voit quand même tout au long de l'année. C'est des petits épisodes et quand on tourne des primes, c'est plus long, mais c'est toujours de la comédie en fait. Donc c'est toujours bonne ambiance, super intéressant, vraiment ambiance familiale aussi quoi. J'aime beaucoup aussi tourner sur En Famille. Et c'est vrai que les deux personnages, Annabelle est complètement différente de Chloé, et en même temps, il y a des choses qui s'y retrouvent. Et j'aime beaucoup aussi la comédie. Donc, à chaque fois, c'est un plaisir d'y retourner.
Alors, ce prime au château, c'est quoi? Raconte-nous.
Alors, du coup, on découvre que la famille a des origines nobles avec un château. Et ça va un peu tout chambouler. Il y aura potentiellement aussi la peur de perdre ce château. Peut-être... une solution pour le garder dans la famille et l'impact que ça va avoir aussi au cœur du noyau familial et des tensions que ça peut créer aussi. C'est comme à chaque prime, il se passe quelque chose un peu d'improbable aussi et on en découvre un peu plus sur les personnages. Les primes, c'est intéressant aussi par rapport à ça. Comme c'est plus long, ça nous permet d'approfondir plus les personnages. C'est plutôt très drôle aussi.
Oui, et puis c'est pas des sketchs, le prime. On est vraiment sur une histoire qui se suit du début à la fin. Donc c'est totalement différent aussi. C'est ça qui est bien quand même. Je dois avouer.
C'est ça, les lieux sont différents et tout ça, donc c'est sympa.
Dis-moi, il paraît que t'es réalisatrice aussi. T'as fait du court-métrage, t'as réalisé des clips aussi. Ça, c'est quelque chose qui te plaît aussi, de passer souvent derrière la caméra. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait peut-être à l'avenir dans une future saison de Tropic Criminel, par exemple?
Alors, de base, j'ai fait des études de ciné en réel. C'est vraiment ma vocation. J'ai fait effectivement des courts-métrages, des clips. Et là, je suis en Martinique pour réaliser... un documentaire sur la jeunesse queer martiniquaise que je co-réalise avec Julien Bonner. Et c'est vrai que oui, je me projette réalisatrice, si j'ai envie d'être réalisatrice, je me considère comme déjà réalisatrice. Mais Tropic Criminel, je sais pas, peut-être qu'un jour ça se produira, mais c'est vrai que c'est quand même c'est lourd comme projet, faut vraiment avoir les épaules pour, c'est plutôt long. Donc pour le moment, je me sens pas prête à réaliser quelque chose d'aussi intense, on va dire.
T'as pu échanger justement là-dessus avec Sonia Roland qui vient de réaliser, elle, son premier film pour France 2 qui passera à la rentrée, qui s'appelle d'ailleurs Un Destin. Est-ce que t'as pu échanger avec elle justement sur son expérience qu'elle a vécue à l'automne dernier en tournage, elle?
Oui, bah c'est une source d'inspiration, Sonia. Là, elle a fait, c'est un peu, c'est pire que double casquette, elle est polyvalente, elle peut tout faire. Donc c'est vrai que c'est hyper inspirant pour moi de voir tout ce qu'elle peut accomplir. Et oui. Ça m'apporte beaucoup, ça me nourrit beaucoup aussi et je suis très 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 fière d'elle.
Eh bien écoute Antoinette, on te retrouve vendredi dans Tropic Criminel pour un nouvel épisode inédit de votre série saison 4. Et puis on te retrouve très prochainement sur M6 pour un prime exceptionnel de En Famille qu'on va avoir grand plaisir à retrouver. Et puis peut-être à la réalisation une prochaine fois en tout cas. Ça sera avec plaisir, tu viens en reparler quand tu veux.
Avec plaisir.
Bon, et eh bien écoute, bon courage en Martinique, tu sais on te plaint, franchement, là-bas de devoir être là-bas avec le soleil, le sable chaud, les cocotiers, ça doit être très très dur à vivre.
Hein. Oui vraiment, merci d'avoir cette pensée pour moi, c'est un peu compliqué en ce moment.
Bon, allez, on t'embrasse très très fort avec le décalage horaire, merci d'avoir été avec nous en tout cas Antoinette, et puis on va se quitter avec un petit extrait, à très vite.
À très vite, au revoir.
Et vous savez commandante, dans la mangrove tous les coins se ressemblent. Moi, une fois, j'avais rendez-vous pour un pique-nique. Lucien m'avait envoyé le point GPS. Bah, je me suis retrouvé en plein milieu d'une bananeraie. Ah, vous imaginez? Merci, Lucien. Qu'est-ce que... ça va pas?
Attendez. Ah oui, vous avez deux légères brûlures. Typique d'un coup de taser.
Si vous m'aviez demandé, je vous l'aurais dit. Bon, à propos du corps...
Je vous amène à l'hôpital. Il faut vérifier votre rythme cardiaque.
J'en ai pas le temps.
Non, mais c'est important. Il y a un risque d'arythmie cardiaque. Et seul un électrocardiogramme peut le déceler. Vous savez, un coup de taser, c'est dangereux, il y a déjà eu des victimes.
Et t'as pas ton stéthoscope? Ça, tu le fais et on gagne du temps.
Je suis pas médecin, je suis technicien de scène de crime. Et vous me passerez un scanner.
Allez, on bouge pas, dans un instant, Patrick Timsit ainsi que Zineb Triki et Robin Sykes seront là pour le film Sexygénaire. Alors à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Sexygénaire qui sort mercredi dans les salles. On a la chance d'avoir toute une partie de l'équipe avec nous aujourd'hui. Un habitué de l'émission, Robin Sykes, on était là pour la finale, pour ce très beau film avec Ryan Bensetti et Thierry Lhermitte. Eh bien, Robin est de retour avec nous pour son nouveau film. Bonjour Robin.
Bonjour.
Merci d'être là, un habitué de l'émission. Mais on va le présenter juste après parce qu'on va être galant. On va parler évidemment de Zineb Triki qui est avec nous. Bonjour Zineb.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Patrick Timsit, parce que c'est un sociétaire de Chut, on écoute la télé. On est toujours ravis de t'avoir, Patrick. Bonjour.
Bonjour. Voilà, quand j'avais dit qu'on était chez les pros, mais j'avais oublié chez les élégants. Il a raison. Non, mais c'est vrai, parce qu'on fait plusieurs interviews dans la journée, tout ça, on se rend pas compte. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un ordre dans la vie qui doit être respecté.
Un ordre hiérarchique. T'as vu, réalisateur, comédienne, comédien. Voilà.
Et on a une éducation.
Exactement. Bon, moi, je suis très heureux de vous avoir parce que j'ai eu la chance de voir le film au Festival de Alpe d'Huez un peu avant tout le monde. Et franchement, j'ai passé un super moment. Et surtout, le bonheur de voir réunir pour la quatrième fois ce duo mythique du cinéma français, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte. Ça, c'est un beau cadeau.
C'est un cadeau que je me suis fait aussi un petit peu parce que on a écrit ce scénario vraiment pour réunir Thierry et Patrick à nouveau. Moi qui étais jeune quand j'ai vu certains films comme Un Indien dans la ville et qui m'ont marqué, et j'avais très envie de retrouver ce duo dans mon prochain film. Donc j'en ai parlé à Thierry, j'en ai parlé à Patrick après et...
La magie a opéré.
La magie a opéré et on est très heureux du résultat, ça fonctionne bien. Le duo est au rendez-vous dans le film et les spectateurs ont bien perçu ça aussi comme un peu comme quand j'étais jeune, quoi. Ça m'a plu, voilà.
Bon, on va planter un petit peu le décor. On va y retrouver un peu les aventures de Michel, qui tient un très très bel hôtel sur la Côte d'Azur. Les affaires vont pas très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il va en gros recontacter son copain Denis, qui est à Paris, avec lequel il est associé dans une brasserie. Enfin, du moins, c'est ce qu'il croit. Vous verrez dans le film. Et donc, Michel, eh bien, pour essayer de sauver un peu son hôtel de la faillite, eh bien, va se mettre dans du sexy mannequin, on va dire, un peu comme ça. C'est on va dire du mannequinat pour les plus de 60 ans. Et ils vont essayer de, voilà, de gagner un peu d'argent de ce côté-là. Et c'est Zineb, alias Manon, qui va être leur agent à tous les deux. Mais Patrick, déjà, comment t'as composé ce rôle de Denis, qui est quand même un peu le boulet de Michel, hein, on peut dire.
Sur une énergie. Je l'ai composé grâce au scénar, hein, grâce au rôle qui m'était proposé, au regard de Robin avec qui on avait passé quand même du temps. C'est, parce que la proposition, c'est pas de recréer qu'un duo, c'était aussi d'expliquer que ça valait vraiment le coup. Parce que les duos, il y a des idées de recréer les duos, on en avait eu, on en a aussi avec d'autres avec qui j'ai fait des duos. C'est vrai qu'il y a ce côté clown blanc et Auguste qu'on a avec Thierry. Mais il nous faut une histoire, mais il nous faut des sentiments, il faut vraiment que ça corresponde à une histoire qu'on a envie de raconter. La composition, elle est faite par un rythme, une énergie. Le rythme, c'est l'urgence. Mon personnage de Denis, donc pour préciser, c'est celui qui est à Paris, il est dans la survie, c'est-à-dire j'imagine même pas, et j'y pense en le racontant, parce que j'ai même pas pensé en le construisant, il n'a pas toujours été comme ça. On ne s'associe pas avec le personnage qu'on voit Denis à l'image dans cette histoire, dans le moment qu'il vit, dans l'instant T qu'il vit. Ça devait être quelqu'un d'appréciable, le super pote avec qui on a envie de passer du temps. Et puis à un moment, quand on est dans la survie, qu'on n'a plus les moyens, qu'on est acculé, il a un métier, on l'a dit, mannequin senior. Enfin, lui, il est dans un secteur mannequin senior paramédical, je dirais. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux dans la vie d'un mannequin senior. Mais voilà, c'est que tout d'un coup, ce qui me ferait hésiter à faire certaines publicités et pas d'autres, tu vois, en fonction du produit. Et voilà, il va être dans la composition, elle est au service du film, elle est au service de chaque situation qui permet d'avancer dans l'histoire qu'on raconte.
On rit beaucoup et c'est au moment, évidemment, Michel va accompagner Denis lors de ses shoots photos en quelque sorte et de ses pubs, que Manon va tomber sous le charme de ce vieux beau. Il va dire ce beau gosse a belle allure, mais ça serait le mannequin parfait pour des choses un petit peu plus luxueuses que ce que fait Denis.
Oui, tout à fait, elle le repère, elle voit un talent potentiel comme on dit et puis voilà, elle essaie de le convaincre et il se prend en jeu parce que par nécessité en fait. Mais bon, elle se rend compte assez vite que c'est peut-être pas le milieu, l'environnement qui lui convient le mieux.
Face à ces deux-là, on arrive à garder son calme de temps en temps ou alors on est pris de fou rire régulièrement quand même, des gros bains dits coupés.
Non, mais c'est impressionnant et voilà, au début je me suis dit oula, moi je sais pas si je vais pouvoir être drôle, mais en fait c'était pas ça le propos, c'était laisser vivre la situation et puis jouer ma partition, et en tous les cas c'était très très agréable. Ils m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse et de simplicité et voilà, c'est très très bien passé.
J'imagine les moments de grâce, Robin, quand t'es derrière la caméra toi et que tu les vois jouer tous. J'imagine qu'il y a eu des moments de grâce assez jouissifs.
On redevient spectateur, c'est l'enfant dont je parlais tout à l'heure. C'est un plaisir immense, c'est des cadeaux tous les jours, à chaque instant. Zineb disait qu'elle assistait, mais moi j'étais encore plus, je les voyais tous les trois là évoluer. Non, c'est vraiment, c'est un cadeau, c'est ça, c'est constamment un cadeau.
On écoute la bande-annonce de Sexygénaire, ça sort donc mercredi dans les salles et on revient juste après avec vous, à tout de suite.
Alors la banque, comment ça s'est passé?
À nos âges, on prête plus.
Alors tu vas les payer comment, les travaux?
Ah, Michel!
Quoi, la brasserie?
Je me disais que je pourrais vendre mes parts.
Tu me dis ça il y a deux mois?
Je t'ai dit oui tout de suite! J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce.
J'avais des parts dans ton mariage, moi?
Tu peux pas comprendre, toi, la tienne, elle t'a tout laissé.
Elle est morte, Denis.
Moi, j'ai pas eu cette chance, moi.
Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin, alors?
Ben non, je suis acteur.
Tiens-toi droit, envoie un petit peu ton bide.
Vous savez, les sexygénaires, c'est très tendance.
Mieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote.
Bah, c'est peut-être pas le tien, hein. Et c'est payé combien, ton truc?
5 000.
Quel pro, Michel, c'est magnifique.
Tenez.
Mais nous, on avait dit en cash.
Non mais Denis, 8000 en cash, ça s'est jamais vu.
Ah ouais, 3000 de com.
Ah, 10%.
Le gros pourcent alors.
Sexygénaire, le film, justement, Robin Sykes, Patrick Timsit et Zineb Tricky sont avec nous aujourd'hui pour en parler. On va parler de vos meilleurs souvenirs à tous les trois de tournage. Est-ce qu'il y a eu une scène particulière, un moment d'émotion particulier, peut-être sur ce tournage, Zineb?
Je pense que c'était peut-être quand on était dans le désert. C'était quand même une année particulière et de se retrouver comme ça un peu tous ensemble, un peu comme dans une bulle. C'est le moment dont je me souviens le mieux, le plus. Et puis quelques conversations que j'ai eues avec Patrick et Thierry que j'emporte avec moi. Ouais.
Ça reste des beaux souvenirs. Patrick?
Ouais, évidemment. Et puis Zineb était avec nous. Quoi, il y a pas de personne n'était spectateur de personne, et même Robin était aussi avec nous, c'est-à-dire que il y a le moment pour indiquer, puis il y a le moment pour regarder. On était dans le plaisir, mais pas forcément dans le rire. Il y a des films de comédie où qui n'ont jamais été aussi durs que Péladouce ou des choses comme ça où on se retait, mais on savait qu'on allait faire rire. Franchement, quand on tournait, quand tu me demandes quels sont les souvenirs, j'en ai plein qui viennent, parce que c'est pareil, c'est il y a ce moment où un moment où justement Zineb est loin de nous regarder jouer, c'est quand tu es dans la voiture avec cette première rencontre où on voit que mon personnage avec son agent a une complicité totale et qu'il est aux abois du boulot et que il dit mais c'est quoi le personnage, attends, si c'est un malade, c'est quoi, c'est au service, mais je fais parfaitement les malades, qu'est-ce qu'il a, alors quoi, cancéreux, face terminale, alors il y a des choses qui peuvent être comme ça violentes, alors que c'est dans toute la, c'est tout d'un coup ça devient du boulot, ils sont là et c'est vrai que c'était des moments où on est là, c'est la nuit, elle est là dans cette voiture et ça devient une scène où on sait que c'est une scène de comédie qui va cogner. Les scènes d'hôtel aussi où je les surprends, où je suis là et puis j'ai une discussion complètement folle et décalée avec Thierry Ourzi, bon, que mon personnage c'est un incontrôlable, quoi, c'est pas un dingue, c'est un incontrôlable, il est toujours là, c'est comme l'impression de faire des farces. Moi j'aime bien être comme les enfants, on est très sérieux pour faire des farces, très silencieux, très à l'affût, et paf, on sait que ça va claquer, qu'on va faire bouh et que la personne va sursauter.
Il a quelque chose de tellement attachant, Denis.
Ben, en parlant de d'émotion, vraiment la scène de l'hôpital où il y a cette confusion entre sa fille, la fille de Denis, de mon personnage, et la mort d'un ami proche. C'est un film, comment rester insensible quand tu as le vrai âge de ton personnage et les mêmes problèmes que ton personnage. Ce n'est pas la même histoire, heureusement, mais vraiment, il n'y a pas à aller chercher ailleurs. Que quand nous, on est vraiment, j'ai jamais eu aussi peu de travail à faire dans la recherche. Au contraire, on était plutôt dans la retenue de temps en temps pour pas tomber dans le pathos. Parce que l'émotion, elle y est en permanence. Regarde aujourd'hui ce qu'on vit, les retraites, les gens concernés. Est-ce qu'ils, tout d'un coup, on te dit, mais je veux partir à la retraite tôt. Oui, mais je veux pas qu'on me vire parce que je suis senior. Et l'autre qui va dire...
Il arrive en plein dans l'actualité ce film, c'est clair. Hein.
Oui, c'est quoi un travail pénible? Alors l'autre va te dire, mais moi, chef d'entreprise, c'est un travail pénible. Industriel, c'est un travail pénible. Oui, mais mineur, ouvrier, c'est un travail pénible. Oui, c'est vrai. Sauf que toi, peut-être, en tant que chef d'entreprise et industriel, tu as pu prendre soin de ta santé. Tu as pu prendre soin de toi. Tu as eu les moyens de prendre de vraies vacances. Tu as eu les moyens de prendre des nounous pour tes enfants. Tu as eu les moyens de prendre un coach pour ta gym. Et l'autre, eh ben, il a continué de bosser. Donc, il y a vraiment ça va être un travail énorme de savoir ce que c'est que la pénibilité au travail. Quels sont les métiers? C'est pas les métiers, c'est individuel. Quels sont les gens au bout du rouleau et faire attention aussi qu'ils se retrouvent pas sans rien du jour au lendemain qui va les faire mourir immédiatement.
Il y a pénibilité physique, mais psychologique aussi. C'est deux choses différentes.
Et ces deux personnages-là qui se retrouvent à l'âge de la retraite, justement, avec des problématiques de est-ce qu'on va basculer dans la précarité ou pas, nous qui avons vécu, travaillé et vécu normalement en plus, en gagnant bien notre vie. Le personnage de Patrick dans le film était gérant d'une brasserie, associé avec le personnage de Thierry qui lui aussi a un hôtel. Et arrivé à cet âge de la retraite, ils sont en train de tout perdre. Est-ce qu'ils vont basculer dans la précarité? Ouais. Ils ont de la chance, ils se rattrapent sur le, en posant dans les magazines, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc oui, effectivement, on arrive pas mal dans l'actualité. C'est pas fait exprès, parce que ce film, on l'attendait il y a un petit moment déjà. On était en plein Covid, on parlait de souvenirs tout à l'heure. Chaque jour était un grand souvenir, parce qu'effectivement, Zineb parlait du désert, c'était particulier de se retrouver en plein désert, de respirer au moment où on avait tous été enfermés. Moi, j'ai pas pu voir mes enfants pendant tout le tournage, parce qu'on était dans le deuxième confinement. Patrick non plus pouvait pas les voir. Mais on était quand même tous ensemble en train de vivre, d'essayer de vivre, de faire vivre des choses. Et donc, bah, quand on est un peu comme ça, cloisonné, de pouvoir rire ensemble, de vivre des émotions ensemble, ça aide aussi, ça nous a aidé. Donc chaque jour est un bon souvenir sur ce tournage.
Et puis aller voir le film aussi pour voir effectivement chaque jour les perruques différentes d'Olivia Cotte, ça vaut le coup aussi. Vous allez voir dans le film, on a beaucoup ri. Patrick, aussi à la production de comédie romantique, et Pascal LB, on en a parlé en octobre dernier, il y a plein de projets qui arrivent sur 2023. Robin, la suite, j'imagine que tu réfléchis déjà peut-être au prochain film.
Oui, je suis en train d'écrire au prochain film. Mais je vais pas en parler maintenant. Parce que...
Bon, tu reviendras.
Oui, je serais ravi de revenir. Ouais.
Zineb, les projets pour 2023?
Pour le moment, rien de sûr. Voilà.
Ça sera l'occasion de revenir aussi. Hein. Exactement. À nos âges, ça sort mercredi au cinéma. Merci à tous les trois d'être venus en tout cas nous en parler. Et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que, parce qu'on a parlé de ces sujets graves et d'actualité, que c'était au service d'une comédie. Voilà, parfois, c'est vrai que c'est dur de ne pas se laisser embarquer, parce que c'est ce qui nous a fait faire ce film. C'est parce qu'il est dans le fond, parce qu'il parle des sujets de notre vie et d'un moment et d'une période de vie, et qu'on se souhaite d'ailleurs, parce qu'il y en a malheureusement qui n'y arrivent pas en plus. Et voilà, mais quelle source de comédie, voilà.
Ça sera un beau mot de la fin. Merci beaucoup Patrick, merci Robin, merci Zineb, à bientôt.
Quoi, tu dormais?
Je suis pas seul, Denis.
Oh, t'as tout compris, vous couchez pour réussir.
Mais tu fais le mannequin maintenant?
Le cintre, je dirais plutôt. Tu me donnes quel âge?
Tu vas pas t'y mettre toi aussi?
T'attends quoi?
De tout perdre et de mettre tout le monde à la rue,
c'est ça que tu veux?
On était à ça d'arriver.
Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous mets?
Tu t'es regardé, Denis?
Ah ouais. Parce que tu crois que ta gueule, elle vaut plus que la mienne?
T'es pas bon en chiffres, t'es pas bon en expression. T'es bon en quoi, exactement?
En amitié.
C'est ton pote, lui?
Lui, hein? Je le connais pas. Il me colle depuis tout à l'heure.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, on parlera du Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez 38.5 Quai des Orfèvres avec le réalisateur Benjamin Lerer. On aura également Valentin Papoudoff à l'affiche de Tropique Criminel et plein d'autres surprises évidemment qui vous attendent.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.